chapitre 2, nous étions arrêtés au verset 23 et nous reprenons au verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction est reçue de lui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. C'est toujours, n'est-ce pas, dans la ligne des antichrists, des faux docteurs, que dénonce ici l'apôtre Jean, antichrist, faux docteur, qui étaient nombreux, puisque dans le commencement de cette épître, particulièrement dans le chapitre 2, nous avons vu qu'il y avait plusieurs antichrists maintenant, et le mot plusieurs en grec veut dire beaucoup. Le mot, c'est-à-dire le mot qui est traduit par plusieurs ici, c'est un mot qui en réalité signifie essentiellement beaucoup. Il y en avait donc, et bien entendu cela n'a pas cessé, je vous ai exposé pourquoi il ne pouvait pas ne pas y avoir d'antichrist, c'est l'œuvre de l'ennemi, de Satan, qui est déjà condamné, a dit le Seigneur Jésus, avant de quitter cette terre, il est déjà condamné, et bien entendu l'Église est là, l'Église est déjà fondée, le fondement est posé, on est en train de bâtir dessus, d'augmenter l'édifice, n'est-ce pas, de génération en génération, et le diable assiste à cela dans son propre royaume. Alors vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il va réagir, et les moyens de réaction, dans la logique même de ces choses, nous les avons vus, ça ne peut être que la séduction, essentiellement la séduction, quand ce n'est pas la persécution, c'est la séduction. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Le mot commencement ici est amphibologique, c'est-à-dire qu'il a double sens. Il est à double sens. Il y a premièrement le sens que voici, le commencement de la prédication apostolique. Ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est-à-dire dès que l'on a commencé à annoncer l'Évangile. Et cela n'était pas éloigné de Jean, c'était éloigné de quelques dizaines d'années, n'est-ce pas ? Par conséquent, c'était encore proche aujourd'hui, nous ça fait des siècles que ça a commencé, n'est-ce pas, la prédication de l'Évangile. Mais au temps de Jean, c'était proche. Alors, donc, le commencement, là, dans un premier sens, c'est le commencement de la prédication apostolique. Et ce commencement, les premiers destinataires de l'Épître, les destinataires directs, comme on peut les appeler, n'est-ce pas, contemporains de Jean, ils l'avaient ce commencement. Ils en avaient encore, non seulement la tradition orale, mais ils en avaient des écrits, n'est-ce pas. Il y avait encore là, et la preuve c'est que Jean, lui, était un homme du commencement, il était apôtre, et par conséquent, il prêchait le commencement, c'est-à-dire le fondement. N'est-il pas, lui, l'un de ceux qui a posé avec son maître Christ le fondement de l'Église. Le deuxième sens est celui-ci, le commencement de l'expérience chrétienne de chacun. Le commencement, en somme, où la parole de vérité a fait naître le chrétien à la vie nouvelle. Et c'est ce second sens qui nous parvient. C'est ce sens-là qui nous parvient et que nous avons à prendre. Nous ne serions pas nés à la vie nouvelle sans la parole de vérité. Jacques, dans son épître au chapitre 1er, au verset 18, et au verset même 16, 17 et 18, nous dit ceci. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Le Père des Lumières, le Père chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation, le Père de qui provient toute grâce excellente, tout don parfait, nous rappelle d'abord cet apôtre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est lui qui nous a engendrés, et qu'a-t-il utilisé pour nous engendrer à la vie nouvelle selon sa volonté? Il a employé la parole de vérité, qui ne veut pas dire seulement la parole écrite, n'est-ce pas, mais la parole qui a pénétré dans les cœurs. Cette parole qui a pénétré comme une semence incorruptible, selon le mot de Pierre, cette parole apportait le germe de vie et elle nous a engendrés. Ensuite, ce même apôtre, n'est-ce pas, je ne veux pas faire maintenant l'étude de Jacques, mais ce même apôtre Jacques, n'est-ce pas, nous montre que cette parole qui nous a engendrés, nous en avons toujours besoin, il faut la conserver, et c'est elle qui va entretenir la vie en nous. Eh bien, c'est bien ce que Jean veut nous dire lui aussi dans le texte que nous étudions. Ainsi, la parole, n'est-ce pas, de vérité nous a fait naître. Nous ne serions pas nés sans elle. Il faut bien que nous sachions une chose, c'est que l'erreur n'enfante pas à la vie de Dieu. Une parole déviée, je ne dis pas seulement une parole dénuée de la puissance du Saint-Esprit, mais je dis même une parole, n'est-ce pas, déviée de la vérité. Hein. Eh bien, cette parole-là ne peut pas enfanter. Si vous prenez, n'est-ce pas, dans la nature, hein, une semence quelconque, et que vous apportiez une petite modification à la semence, n'est-ce pas, eh bien, vous la tuez. Elle ne peut plus produire la vie, n'est-ce pas, c'est fini. Eh bien, là, il en est de même. L'erreur n'enfante pas à la vie de Dieu. Elle ne peut pas révéler Jésus-Christ. Elle ne le peut pas. Même si Dieu n'interdisait pas, si vous voulez, mais elle ne peut pas, c'est pas possible, n'est-ce pas, la parole de vérité, il faut la voir comme ce grain, cette semence qui a un germe, et ce germe c'est quelque chose d'infiniment complexe dans l'infiniment petit, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, extraordinaire ce germe, eh bien, mais ça, il faut que ce soit intégral, quand on prend une semence, n'est-ce pas, il ne s'agit pas de briser le petit germe s'il s'est déjà un peu manifesté extérieurement, si on le brise, c'est fini, c'est fini. Ce germe-là contient la plante qui va se développer, eh bien c'est ça, on ne peut pas y toucher, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui ne peut pas être faussé, il faut que ça reste tel que le Créateur l'a fait. L'erreur n'enfante pas. Ce qui entend, c'est l'esprit de vérité, c'est la parole de vérité, et c'est bien là-dessus que se fonde ici l'apôtre Jean. Nous avons entendu cette parole de vérité, c'est donc elle qu'il faut garder, c'est elle qu'il faut garder, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Voilà ce qu'il faut garder, voilà le dépôt précieux qu'il faut garder. Et il faut se méfier des innovations qui sont contraires à cette parole de vérité. Devant l'assaut des fausses doctrines ou des séductions, la mesure prudente et indispensable qui est à prendre est de se maintenir fermement ou de maintenir fermement en soi la foi en la parole de vérité entendue dès le commencement de l'expérience chrétienne. Voilà ce que veut dire le texte, n'est-ce pas ? Votre expérience chrétienne a eu un commencement, à ce commencement vous êtes né de nouveau, par la parole de vérité qui est venue du Père des Lumières, n'est-ce pas ? Bon, eh bien, cette parole de vérité qui vous a fait naître, gardez-la, qu'elle demeure en vous. Voilà la première chose à faire, voilà comment vous allez, n'est-ce pas, écarter le danger pour vous-même des fausses doctrines. Nous allons d'ailleurs voir des recommandations analogues dans 2 Pierre 1, 10 et 12. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Élection, ça c'est une œuvre de Dieu, n'est-ce pas ? Votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est vous ce que nous dit Pierre. Ben, si vous vous appliquez à affermir votre vocation, votre élection, et il y a la parole de vérité à la base de cela, vous, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, la vérité apostolique. Je prendrai soin de vous les rappeler. C'est la même idée que dans Jean, n'est-ce pas, qui dit, attention, n'est-ce pas, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est en cela qu'il faut demeurer. Demeurez, gardez cela, maintenez cela en vous. Et puis, un deuxième passage, Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Le comment ici, n'est-ce pas, est un peu insuffisant comme traduction. Il faudrait mettre ceci. Rappelle-toi donc l'ensemble de ce que tu as reçu et entendu. Ben, l'ensemble avec le tour, si vous voulez, que ça a pris, c'est-à-dire, rappelle-toi, n'est-ce pas, quel était le contenu, n'est-ce pas, de ce que tu as reçu et entendu, et garde cela. Garde cela. Voilà le conseil du Seigneur. Allons éclairer plus loin le pourquoi de cette vive recommandation. Cet apport premier de vérité, qui a été rendu puissant par l'Esprit, doit donc demeurer dans le cœur du chrétien, doit s'y fixer l'esprit qui est arrivé dès le commencement, c'est-à-dire dès le commencement d'expérience chrétienne. L'esprit, mais il fait une œuvre qui dure, et il maintient son œuvre lui-même si on le laisse faire. Il va maintenir son œuvre, n'est-ce pas, lui-même. Il est évident, n'est-ce pas, que on peut le dire, la difficulté dans la vie chrétienne, c'est de durer. C'est pourquoi, n'est-ce pas, j'aime bien entendre des témoignages de conversion, quelquefois, n'est-ce pas, des conversions qui amènent un homme de loin, de bien loin, et puis qui le rapproche et qui le met au pied de la croix. J'aime bien entendre ça. Mais j'aime aussi entendre des témoignages de chrétiens qui ont demeuré fermes, sont demeurés fermes, des chrétiens qui ont gardé pendant des dizaines d'années. Ça, c'est beau aussi, n'est-ce pas ? Ça, c'est utile à entendre. C'est un témoignage de l'œuvre du Saint-Esprit, un témoignage d'une foi qui ne s'est pas démentie. Donc, le Saint-Esprit fait une œuvre qui dure. La foi doit toutefois, elle, s'employer à cette conservation. Le terme « demeurer », n'est-ce pas, évoque ici une conservation de ce qui a été reçu et entendu. Une conservation. À quoi cela servirait-il d'avoir entendu un évangile magnifique, d'avoir été bouillant dans le cours du premier amour, n'est-ce pas, au début ? Et malheureusement, il y a des gens qui ont été comme ça. Avoir été bouillant, magnifique, n'est-ce pas ? Avoir tout abandonné. Et puis après, n'est-ce pas ? Après avoir peut-être vécu quelque temps de vie chrétienne, n'est-ce pas, de retomber dans les errements précédents, de retourner à ce qui a été vomi, n'est-ce pas, de s'éloigner, n'est-ce pas ? Oh, chers amis, mais c'est épouvantable, ça. C'est épouvantable, épouvantable. Il y a de brillants témoignages de conversion qu'on ne peut plus donner aujourd'hui, parce que ceux qui sont intéressés, qui ont vécu ces débuts, n'est-ce pas, cette conversion, sont retombés, alors on ne peut plus donner leur témoignage. Je me rappelle un jour, nous étions dans une église, et puis il y avait quelqu'un qui voulait donner le témoignage d'un autre qu'il avait très bien connu. C'était une conversion magnifique. Et puis le pasteur lui dit, surtout jamais, non, ne donnez pas ce témoignage. Alors l'autre ne savait pas, il dit, mais pourquoi? C'est beau, c'est un témoignage magnifique. Vous ne savez pas, malheureux, que cet homme est tombé. Alors on ne peut plus donner le témoignage de la conversion. Ça, vous vous rendez compte? Chers amis, demeurez, nous dit le Seigneur, demeurez dans ce que vous avez entendu. Mais ça, c'est important. Le salut n'est pas justification seulement, mais justification plus sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est bien de venir dans la maison de Dieu. Il faut s'y tenir, il faut y demeurer. Mais la foi doit s'employer à cela. Si vous ouvrez votre cœur à tout vent de doctrine, à toute explication séduisante qui peut vous venir du dehors, dont vous ne discernez pas l'astuce ou la malice, il y a toujours une astuce dans ce qui est séduisant. Bah, j'avais une brochure l'autre jour, là, je l'ai laissée à mon bureau, je ne l'ai pas rapportée, n'est-ce pas? Et en lisant cette brochure, n'est-ce pas, apparemment très bien faite par des gens qui ont de la connaissance, il y a là-dedans une astuce, on arrive à des conclusions qui sont anti-bibliques, qui ne sont pas selon la saine doctrine. Et quand on lit ça, c'est séduisant. Il y a même des moments, n'est-ce pas, quand on se trouve devant des fausses doctrines écrites, il est quelquefois même difficile de discerner la jointure, de voir à quel moment ça se sépare de la vérité, de voir, n'est-ce pas, c'est très difficile. Je l'ai souvent essayé, n'est-ce pas, on sent que ce n'est pas juste, mais on a du mal, quelquefois, n'est-ce pas, il faut vraiment étudier la chose pour arriver à déceler l'astuce et la malice d'une fausse doctrine. Alors, si vous recevez cela dans votre cœur, vous attristez l'esprit en vous et vous vous rendez vous-même vulnérable. Christ en vous, lui qui est la vérité, n'est-ce pas? C'est cela qu'il vous faut, Christ en vous, la vérité en vous. Mais attention, Christ ne sera pas en vous avec la vérité sans vous. Il ne sera pas en vous sans vous. Je rappelle ce que le Seigneur a dit. Si, il y a toujours un « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, n'est-ce pas, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé, c'est l'exaucement de la prière. » Mais il a dit aussi ceci, « demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Mais si vous ne vous maintenez pas en moi, moi non plus, je ne me maintiendrai pas en vous. Ensuite, au verset 24 toujours, Jean nous dit « si ». Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Pour demeurer, mettez, si vous voulez, pour la bonne compréhension, mettez maintenir. Alors, nous avons ceci. Si ce que vous avez entendu dès le commencement se maintient en vous, vous vous maintiendrez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Parce que demeurer a le sens ici, n'est-ce pas, non pas d'habiter, n'est-ce pas, en mettant sa carte de visite là, n'est-ce pas, d'habiter et puis d'aller se promener partout, n'est-ce pas? Non, il s'agit là, n'est-ce pas, de rester vraiment, de s'établir dans la position indiquée. Si cette position est tenue, si donc, n'est-ce pas, nous demeurons dans ce qui a été entendu dès le commencement, c'est une condition, hein, d'où va découler une conséquence, mais la conséquence, elle est magnifique, elle est surnaturelle, elle est pleine d'une puissante et glorieuse réalité, demeurer dans le Fils et dans le Père, se maintenir dans le Fils et dans le Père, là, être vraiment dans l'union, n'est-ce pas, une union qui, alors là, est solide, une union qui ne peut pas, n'est-ce pas, se rompre, impossible, vous demeurerez, vous serez dans cette union solide, magnifique, une union extraordinaire avec le Fils et avec le Père. Vous serez maintenu dans cette union. Vous vivrez donc dans la communion. C'est-à-dire que, à ce moment-là, en faisant un petit peu, n'est-ce pas, appel aux moyens d'expression de Paul, il est bon d'utiliser tous les éléments qu'on a dans la Bible, eh bien alors nous pouvons dire que le chrétien qui se maintient ainsi dans ce qu'il a entendu dès le commencement, il garde la parole du Seigneur, il demeure dans le Seigneur demeure en lui, il est dans la communion du Fils et du Père, alors on peut dire qu'il plonge ses racines, des racines qui s'étendent toujours plus, des racines, n'est-ce pas, qui prennent possession du terrain, alors il plonge ses racines dans la vie de Jésus-Christ, hein, et par suite dans la vie de Dieu lui-même. Voilà ce que l'apôtre nous dit. Mais attention, il n'y a rien, chers amis, de plus important que cela. Nous touchons à la moelle épinière, si vous voulez, n'est-ce pas, de l'expérience chrétienne. On fait place à un tas de choses. Certes, il y a des choses enseignées qui ont une place. Mais, chers amis, si vous faites place à tout, mais que vous ne faites pas place à ça, à la communion au Fils et au Père, ben, c'est bien le thème dominant de cette épître de Jean qui nous a dit « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » C'est la moelle épinière. S'il n'y a pas cela, chers amis, tout le reste devient factice. Vous pouvez avoir un intérêt pour la Bible, un intérêt pour le chant, un intérêt pour l'Église, participer à toutes sortes de manifestations. Tout sera factice si vous n'avez pas la communion. La vie chrétienne a pour fondement la communion au Fils et au Père. Ça, c'est ça qu'il faut mettre au premier plan. Et je le dis quelquefois, mais je suis obligé de le redire, n'est-ce pas? Vous avez des personnes, hélas, dans la Pentecôte, qui cueillent ce qui leur plaît et qui cueillent notamment, par exemple, certaines exaltations, certaines émotions religieuses. Mes chers amis, faisons un petit peu tout de même de psychologie et si nous allons dans des milieux religieux, quels qu'ils soient, mais vous trouverez des gens qui ont des émotions religieuses, vous en trouverez des gens. Vous en trouverez chez les bouddhistes, vous en trouverez où vous voudrez, vous en trouverez dans le catholicisme. Vous trouverez des gens qui ont des émotions réelles, des émotions, n'est-ce pas, de véritables émotions religieuses, des émotions qui leur donnent le sentiment, n'est-ce pas, d'être saints, de s'être rapprochés de Dieu. Mais, chers amis, tout cela n'est que travail de l'âme. Sans le travail de l'esprit, s'il n'y a pas la parole de Dieu, s'il n'y a pas la communion. Parce que la communion, c'est par l'esprit qu'elle se réalise. Notre esprit a l'esprit de Dieu. Ça, l'Esprit Saint sera en vous, il sera avec vous, il sera en vous. Et où va-t-il être? Il va être en union avec l'esprit de l'homme qui a été réveillé par la nouvelle naissance. Alors, ça c'est central. C'est ce qui fait le vrai christianisme. Il faudrait, voyez-vous, préférer savoir peu de choses et être dans la communion du Fils et du Père que de savoir beaucoup sans cette communion. Et je ne dis pas que l'ignorance est une chose à cultiver, mais je dis, n'est-ce pas, c'est pour vous montrer, mieux vaudrait en somme avoir peu de savoir biblique, mais être dans la communion que d'avoir une grande connaissance biblique et d'être en dehors de la commune. C'est central, il faut attacher à cette communion avec le Fils et le Père la priorité absolue. Ça, c'est la priorité des priorités. Et la promesse qu'il nous a faite, dit le verset 25, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Dans le texte original, on lit ceci, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie virgule, l'éternel. Il n'y a pas de virgule dans le grec, mais enfin c'est moi qui dis, c'est pour séparer. Enfin, la vie, l'éternel. Mais vous, il y a un accent, n'est-ce pas, une insistance. D'avoir la vie, d'ailleurs quand Jean parle de la vie, quand Jésus parle de la vie, c'est bien la vie véritable qui est éternelle. Mais là, Jean, n'est-ce pas, accentue la vie, l'éternel. Il s'agit de celle qui est éternelle. Jésus est pour les hommes l'auteur et l'introducteur de la vie vraie et éternelle. Et cette vie vraie, cette vie éternelle, est présente dans le chrétien. Elle est présente en une réalité qui précisément, n'est-ce pas, est celle et est conséquence de la communion, si je puis dire, où elle est liée à la communion. Si le Christ est là en vous, si l'amour, n'est-ce pas, de Dieu est en vous, si Christ y est, l'amour de Dieu est en vous, la victoire est en vous, il y a, n'est-ce pas, tout ce qui appartient à Christ qui est là. Il est venu avec une plénitude. Il vient pas les mains vides. Il vient tel qu'il est, n'est-ce pas, le Christ glorifié, avec tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a conquis. Il vient avec cela. Alors il est là, n'est-ce pas? Il est là, à pied d'œuvre, dans le cœur, dans la personne. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, est-il dit. Alors il est là, n'est-ce pas? Alors s'il est là, et s'il est lié à vous, mes amis, c'est tout simple. Le Christ ne meurt pas. Et c'est, il nous le dit lui-même, Paul nous le rappelle dans les Romains, le Christ ne meurt pas, il ne peut plus mourir. Il ne peut pas mourir. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Il ne peut plus mourir. Bon, il ne meurt pas, ce Christ vivant, avec une humanité vivante, disons, n'est-ce pas? Eh bien, il est là. Il est là à pied d'œuvre, et s'il est lié à vous, comment voulez-vous que vous mouriez? N'est-ce pas? Quand deux parties sont unies l'une à l'autre, n'est-ce pas? Et qu'elles sont vivantes, eh bien, il faudrait que l'une meure pour que l'autre meure. Mais si elles sont vivantes, si l'une, celle qui donne la vie à l'autre, si elle est là, elle est dans l'union, eh bien l'autre partie reste vivante aussi, cela va de soi. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui vit et qui croit en moi, mais il faudrait peut-être pour la bonne compréhension dire ceci, celui qui est présent sur la terre et qui croit en moi au point d'être uni à moi, n'est-ce pas, qui est uni à moi, il ne mourra jamais, il ne peut pas mourir. Allons, voyons. N'est-ce pas? C'est tellement vrai, c'est tellement puissant. Il ne peut pas mourir. Il ne mourra jamais s'il reste dans cette union. Il ne mourra pas, il ne peut pas mourir. Celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? N'est-ce pas? A-t-il été demandé à Marc. Crois-tu cela? Et nous, n'est-ce pas? Il faut que nous nous accrochions à cela. Nous sommes présents sur la terre en ce moment. Et si nous restons, nous demeurons en lui, nous restons liés au Christ vivant, nous ne mourrons jamais. Pour mourir, il faudrait alors rompre l'union avec Christ. Au verset 26, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Ceux qui égarent, ce sont les apostats. Le mot dans le grec, n'est-ce pas, est assez révélateur. Ce sont les apostats. Et que sont les apostats? Ce sont des gens qui ont abandonné la vraie foi, la foi, disons. Il n'y a pas une vraie et une fausse foi, n'est-ce pas, mais la foi. Ils ont abandonné la foi. L'apostasie, c'est cela. Ça vient d'un mot, apostasia d'ailleurs, en grec, qui signifie renoncer à. Ils ont renoncé à, ils ont démissionné d'eux. Ils étaient pleinement dans la vérité, dans la foi, ils ont démissionné d'eux, ils ont renoncé à. Et c'est bien ce que nous voyons d'ailleurs dans la deuxième épître de Pierre. Eh bien, ces apostats, ils trompent par de fausses déductions. C'est surtout ça, chers amis, qu'il faut craindre. Parce que quelqu'un viendra ne pas vous dire, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est un homme comme les autres, on viendra vous renverser, n'est-ce pas, l'évangile, vous direz, allez-vous-en, je garde ma foi, moi, je sais que... Bon, mais les apostats ne viennent pas avec des moyens grossiers, comme cela. Ils viennent avec tous les versets bibliques, avec tout, ça. Et puis, alors là, ils vous font des déductions. Vous avez vu tel verset, prenez encore tel autre, et puis encore ça. Alors, vous comprenez, étant donné que le verset dit cela, il vous amène, n'est-ce pas, il amène votre pensée à quelque chose d'un peu nouveau que vous n'aviez pas vu. Ah, c'est comme ça. Puis, alors, c'est assez séduisant, souvent. Tiens, c'est un aperçu que je... Oh, puis ça devient philosophique un peu. Et voilà comment les séducteurs vous éloignent de la vérité. Et c'est par de fausses déductions, par des exposés paraissant bibliques, mais qui s'éloignent des textes et qui construisent une doctrine erronée. Certains hommes ont eux-mêmes été séduits. Il y a des hommes qui ont été séduits et ensuite ils en séduisent d'autres. Suffit-il d'affirmer la vérité pour éviter la séduction ? Je réponds là, je vais au-devant, n'est-ce pas, d'une question. Il y a certains qui disent, oh ben, n'aimons pas entendre parler des faux docteurs, des faux prophètes, des fausses doctrines, des antichrists, des apostats, tout ça. Non, non, non. Pour nous, nous avons Christ, Christ crucifié, nous avons la vérité. Annonçons la vérité est lumière, elle chasse les ténèbres, etc. Alors, cela juge l'Écriture, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que l'Écriture, vous pouvez remarquer que le Nouveau Testament contient des avertissements formels et réitérés. Alors il juge l'Écriture. L'Écriture n'avait pas besoin de faire tout ça. L'apologétique, n'est-ce pas, était une chose inutile selon eux, n'est-ce pas ? Eh bien non, on n'a pas le droit de juger l'Écriture, n'est-ce pas ? Et peut-être qu'en physique, c'est vrai, la lumière chasse les ténèbres, mais en matière spirituelle, n'est-ce pas, les ténèbres peuvent très bien, eux, chasser la lumière. Et la preuve, c'est que Jésus l'a dit lui-même. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Bah, mais si ton œil est en mauvais état, alors ton corps va être plongé dans les ténèbres, et si, après avoir été dans la lumière, ton corps est plongé dans les ténèbres, combien profondes seront ces ténèbres ? Voilà des ténèbres à cause du mauvais état de l'œil, n'est-ce pas ? C'est une figure, n'est-ce pas ? Mais à cause du mauvais état du cœur, à cause que le cœur n'est pas resté attaché à la vérité, alors que s'est-il passé ? Les ténèbres ont repris place et ont chassé la lumière, et là, alors, ces ténèbres-là sont plus profondes que la première fois. Alors, il ne suffit pas, par conséquent, d'affirmer la vérité, il faut suivre l'Écriture, et pas plus, ni moins, mais avec elle, n'est-ce pas, avertir des dangers. L'Écriture nous enjoint de dénoncer avec sans faiblesse la séduction. Et chaque membre de l'Église, attention, n'est-ce pas, il ne faut pas compter toujours sur les gens qui se font par ministère peut-être des apologètes, pas des défenseurs de la vérité. Il faut penser que chaque membre de l'Église doit être capable de se protéger lui-même. C'est ce que veut ici l'apôtre, se protéger lui-même par la foi simple, par la foi ferme en la vérité reçue au commencement. N'accueillez pas, n'est-ce pas, des choses, c'est ce que va vous dire Jean, n'est-ce pas, attention, vous avez une foi que vous avez reçue dès le commencement. Ça, c'est la vérité, parce que vous ne seriez pas né de nouveau. Si vous avez conscience d'être enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau. Et si vous êtes né de nouveau, c'est la parole de vérité qui l'a fait en vous. Alors, cette parole de vérité, entendue dès le commencement, accrochez-vous à ça, gardez-la, c'est ça qu'il faut garder. Et nous arrivons au verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point le mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Par onction, il faut entendre ici l'esprit, mais il faut entendre l'esprit reçu en soi. C'est pourquoi Jean emploie le terme onction, n'est-ce pas, qui fait, si vous voulez, figure, mais il emploie ce terme de préférence à l'esprit, parce qu'il veut dire l'esprit qui est déjà venu en vous. Par conséquent, l'esprit qui vous a oint. N'est-ce pas ? L'esprit vous a oint. Alors, il l'appelle l'onction, l'esprit qui a oint, qui est en vous. Alors, il s'agit de celui-là. Il ne s'agit pas de l'esprit de Dieu qui peut encore vous parler du dehors, qui peut encore, n'est-ce pas, vous montrer bien des choses, n'est-ce pas ? Mais il s'agit de l'esprit qui est en vous. Alors, cet esprit que vous avez en vous, vous enseigne toutes choses. Le mot « enseigner » dans le Nouveau Testament est un peu particulier. Il signifie « pénétrer le cœur ». Pénétrer le cœur. Il y a eu une pénétration. Voilà ce qu'il dit, n'est-ce pas ? L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Elle a pénétré votre cœur. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, n'est-ce pas ? Car l'onction vous enseigne toutes choses. Elle a pénétré votre cœur de la vérité. Elle l'a fait pénétrer. Ce n'est pas resté un enseignement extérieur. Elle a fait pénétrer cette onction l'Esprit en vous a fait pénétrer au fond de votre cœur. Si bien que le terme enseigné ayant un sens bien dirigé dans le grec, il ne s'agit pas ici de l'enseignement strictement biblique, comme l'apôtre le fait. L'apôtre est en train de faire précisément l'enseignement biblique, n'est-ce pas? Il est écrivain sacré, ou comme les ministères dans l'Église, comme les ministères le font dans l'Église. Il ne s'agit pas de cela. Ça, il s'agit de cet enseignement direct apporté au fond du cœur par le Saint-Esprit. Quand on fait de l'enseignement biblique, voyez-vous, n'est-ce pas, dans l'Église, eh bien, il doit y avoir, n'est-ce pas, dans ceux qui écoutent cet enseignement, il doit y avoir l'Esprit, l'onction doit être en eux. Enfin, autant parler à des chaises, n'est-ce pas, il doit y avoir, n'est-ce pas, l'onction en eux. Alors, celui qui parle doit parler, évidemment, par fidélité avec le texte, avec l'onction aussi, mais il faut que ceux à qui il s'adresse aient l'onction. Et la preuve, c'est que quand des gens écoutent l'enseignement biblique, un véritable enseignement biblique, et qui n'ont pas l'onction, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils peuvent peut-être comprendre par la suite, mais au début, ils ne comprennent pas, ils ne reçoivent pas, pourtant des choses qui paraissent à l'énoncé assez simples, ils ne les comprennent pas. Ce que veut dire l'apôtre, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin qu'on vous inculque des notions extérieures sur la personne de Jésus-Christ. Je dis sur la personne de Jésus-Christ parce que c'est le contexte qui le fait dire, ça. Il est manifeste, nous l'avons vu au chapitre 2, nous le reverrons au chapitre 4. Ça, ce qui est en cause, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est surtout là-dessus, je vous ai montré les quatre manières de renier, de nier ou de renier Jésus-Christ. Ça, et c'est ça qui est en cause, n'est-ce pas, dans le contexte de l'épître de Jean. Alors, par conséquent, il est toujours attaché à cette pensée, puisqu'il va y revenir, il y est venu et il va y revenir. Donc, ce que veut dire Jean, c'est ceci, n'est-ce pas, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, qu'on vous inculque des notions extérieures sur la personne de Jésus-Christ, car l'Esprit Saint en vous, vous a apporté la révélation de Jésus-Christ venu en chair. Elle vous l'a apporté à pied d'œuvre. Elle vous l'a apporté l'onction, c'est-à-dire l'Esprit pénétrant en vous, l'Esprit venant en vous, vous a apporté cette connaissance de Jésus-Christ venu en chair, de la personne. Il y a eu un témoignage intérieur, n'est-ce pas? Alors ne laissez pas troubler cette révélation que l'onction a placée en vous. Cette révélation est une authentique attestation de Dieu. Dans cette même épître, nous le verrons, n'est-ce pas? Jean va bien nous montrer ceci. C'est que, attention, il y a un témoignage de Dieu qui est au-dessus du témoignage des hommes. C'est ce que je suis en train de vous dire. Enfin, il y a un témoignage de Dieu qui domine toute chose. Le témoignage de Dieu, il va nous en parler. Eh bien, cette révélation apportée par l'onction, c'est le témoignage de Dieu qui a été placé en vous. Un témoignage de Dieu, une attestation de Dieu sur la personne de son Fils. N'est-ce pas? Et j'en reviens à ceci, j'appuie encore sur cela. Quand je l'aurais dit même 20 fois ou 30 fois, ce ne sera jamais une de trop, n'est-ce pas? Dieu peut seul être témoin de lui-même. Ah, ben ça nous amènerait, n'est-ce pas, à l'étude du témoignage par voie chrétienne, n'est-ce pas? Mais ça c'est une autre chose, je ne peux pas ouvrir tous les chapitres à la fois. Mais je dis ceci, n'est-ce pas? Dieu peut seul être témoin de lui-même. Dieu peut seul, être témoin de lui-même. Et les hommes qui ont avec minutie, avec foi, avec humilité, tout en ayant souvent de la science, que les hommes qui ont une véritable science sont des hommes humbles, eh bien, des hommes de science, de science et de foi, n'est-ce pas, l'ont constaté eux-mêmes, après une étude vraiment très poussée des Écritures, après avoir vécu eux-mêmes la vie chrétienne, ils ont pu dire ceci, c'est que la vie chrétienne, c'est une chose qui s'expérimente par le dedans. On en juge par le dedans. On ne peut pas en juger extérieurement seulement, on en juge par le dedans. Pour savoir ce qu'est le christianisme vrai, il faut l'expérimenter soi-même. Pour savoir ce qu'est Dieu, n'est-ce pas, ce qu'est Jésus-Christ, il ne suffit pas même des descriptions excellentes, des formules excellentes que l'on trouve dans la Bible, et que le Saint-Esprit mettra en lumière pour nous, certes, mais il faut que l'onction est apportée à l'intérieur de nous-mêmes, la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. L'onction vous conduira dans toute la vérité, l'Esprit, dans toute la vérité. Et Paul de dire, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit, c'est lui qui vous conduit jusque dans les profondeurs de Dieu. Et c'est pour ça que je cite assez souvent, c'est un passage clé, Matthieu 11. Enfin, je cite souvent Matthieu 11, parce que c'est un passage clé. Et je puis vous dire une chose, c'est que personnellement, Dieu m'a ramené souvent à ce passage. Alors ça, je peux vous dire donc par expérience même que c'est un passage clé. Souvent, et c'est tellement vrai que ce passage dans le parallèle de Luc, pas, il nous est précisé que quand Christ a prononcé ces paroles, il a frémi en esprit. Il a eu un frémissement d'esprit, tellement c'était magnifique. Eh bien, nous allons relire. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Vous voyez comme il y a là une sainte exaltation, vraiment, n'est-ce pas, une exaltation en esprit du Seigneur. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses lui ont été données. On pourrait dire, mais ça, il est Christ. Lui, alors, c'est spécial pour lui. Attention. Attention, il n'est pas venu faire une expérience qu'il a gardée pour lui. Il est venu faire une expérience qu'il transmet à ses disciples. L'Esprit, donc, lui, il est fidèle. Il n'y a que lui qui peut avoir cette fidélité. C'est la fidélité de Dieu. Il prend de ce qui est à Christ et il l'annonce. Il conserve ce qui est à Christ. L'esprit qui demeure, par conséquent, dans le cœur du chrétien, il y apporte un fruit vrai, un fruit authentique, un fruit qui n'est pas véreux, un fruit qui n'est pas atteint par un parasite, n'est-ce pas? C'est un fruit vrai, un fruit magnifique et un fruit durable. Il apporte un fruit durable, il est une source. Et comment serait-on en communion avec Jésus-Christ s'il n'y avait la révélation de sa personne, n'est-ce pas? Jésus-Christ ne peut pas être là, entouré dans notre cœur d'ignorance, de ténèbres, n'est-ce pas? Jésus étant là, pied d'œuvre, voyons, puisque Jésus est là, demeurez en moi et je demeurerai en vous, j'habiterai en vous, et le Père et moi, nous ferons notre demeure chez vous. Comment voulez-vous que Dieu soit là, n'est-ce pas? Et que nous soyons son temple, sans que la révélation de sa personne, révélation d'esprit, n'est-ce pas? Sans que cette révélation se présente et soit là. Ce n'est pas possible, Dieu est lumière, Dieu rayonne, et dans notre cœur, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu apporte ce rayonnement et cette révélation. On peut dans l'Église exposer ce que la Bible dit de la personne de Jésus, mais on ne peut pas se substituer à l'Esprit Saint qui agit, lui, intérieurement. Ça, c'est impossible, c'est pour ça que Jean nous dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne de l'extérieur. Ce qui n'exclut pas l'enseignement de l'Église, mais il parle de cet enseignement intérieur, n'est-ce pas, auquel les séducteurs s'aviseraient de toucher. Il s'agit de la personne de Christ, hein, Christ venu en chair, Jésus-Christ venu de Dieu, venu en chair. Alors attention, que l'on ne touche pas à ça. Ça, c'est l'onction qui a fait cette œuvre en vous, qui a posé cette pierre fondamentale dans votre propre vie. Ne laissez personne toucher à ça. Amen.